Merci beaucoup, Joseph. Surtout que pour les propositions, ça n'a pas toujours été simple pour entendre. Et un grand merci. Voilà, nous allons continuer notre méditation de l'épître de Jean. Et je vous invite à lire au chapitre 3. Nous lirons ensemble les versets 11 à 18. La première épître de Jean. Chapitre 3. Et nous allons lire ensemble à partir du verset 11. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme la porte de son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Les enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Puisque c'est notre lecture. Nous sommes sollicités de toutes parts à faire des choix à longueur de journée. Et ces choix ne concernent pas simplement les projets importants de la vie, mais vont des choses les plus insignifiantes jusqu'aux grands projets de la vie. Faire un choix exclut de fait les autres choix. On ne peut pas vouloir avoir le beurre et l'argent de beurre. On ne peut pas avoir le tout et son contraire. Il faut choisir à un moment ou à un autre. Seulement, comment choisir? Comment faire son choix parmi toutes les possibilités qui s'offrent à nous? La Bible ne nous laisse pas sans orientation, sans direction. Au contraire, elle nous donne des directives bien précises. Elle nous donne des bases pour faire des choix, des bons choix qui vont s'avérer utiles et bienfaisants pour nous, mais aussi pour la société, pour ceux qui nous entourent. C'est par exemple, à la fin de sa vie, Moïse laisse une exhortation au peuple d'Israël, en invitant le peuple d'Israël à faire un choix. Il lui présente deux choses, mais il lui dit clairement le choix qu'il faut faire. Je mets devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives toi et tes enfants ou ta descendance. Et dans le texte que nous avons lu aussi, il est question d'un choix. Jean ne laisse pas sans orientation. Concernant ce choix, il nous invite à choisir l'amour et à fuir la haine. Choisir d'aimer parce que c'est avant tout un commandement du Seigneur. Et ce commandement a été qualifié par Jean lui-même au chapitre 2, verset 7, d'un commandement ancien et d'un commandement nouveau. C'est un commandement ancien. Ce n'est pas une invention récente. Ce n'est pas une originalité comme aimait beaucoup faire les faux docteurs, les faux enseignants de l'époque de l'apôtre Jean. Vous savez, il y avait des gens qui venaient enseigner, y compris les chrétiens, ils arrivaient chaque jour avec une originalité. Et Jean, il leur dit, mais non, l'enseignement que je vous enseigne, que je vous donne, est un enseignement, est un commandement ancien. Et au passage, je fais une parenthèse, ce que Dieu demande à ce serviteur de la parole, ce n'est pas de l'originalité. Il leur demande la fidélité à l'enseignement biblique. Donc nous ne soyons pas très impressionnés lorsque nous entendons des choses originales. Si elles sont fidèles à la parole de Dieu, pourquoi pas? Mais avant tout, l'exigence, c'est la fidélité à la parole de Dieu et non pas l'originalité. L'originalité, autant de gens caractérisaient justement les faux docteurs qui aimaient arriver chaque jour avec un nouveau enseignement. Or, les apôtres voulaient rester fidèles à l'enseignement de leur Seigneur Jésus-Christ. Le commandement d'aimer est qualifié par Jean, comme je disais, au chapitre 2, verset 7, d'un commandement ancien. C'est un commandement ancien dans la mesure où il remonte jusqu'à la loi de Moïse. Et dans la Torah, dans la loi de Moïse, on trouve d'abord aimer le Seigneur dans Deutéronome 6, et ensuite aimer le prochain dans le Lévitique chapitre 19. Et en même temps, ce commandement est nouveau dans la mesure où Jésus lui donne une place capitale, centrale pour la foi chrétienne. Et il les associe, les deux commandements, pour faire un seul, aimer le Seigneur et aimer le prochain. Et il les associe ensemble pour faire un seul commandement et le placer au cœur de la foi chrétienne, de la prédication qu'il donne, de l'enseignement qu'il délivre à ses apôtres. Et Jésus va encore plus loin en disant, ce commandement, ce double commandement, aimer le Seigneur et aimer le prochain, résume toute la loi, tous les prophètes, une manière de dire, il résume tout l'Ancien Testament. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, a dit Jésus à ses disciples. Encore, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le commandement donc d'aimer, le commandement aimer est centré, il est centré dans le message de Christ, c'est le centre de sa prédication, de son enseignement. Et c'est cet enseignement que Jean rappelle ici dans le texte que nous avons lu. Voici le message que nous avons entendu, et ce dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. Pour faire comprendre son message, Jean donne deux exemples. Deux exemples en matière de la manifestation concrète de l'amour. Le premier, c'est à ne pas suivre, c'est l'exemple de Caïn. Et le deuxième, le second, est à imiter, celui du Seigneur Jésus. Ne faisons pas comme Caïn qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Après la désobéissance qu'on retrouve retracée dans Genèse 3 dans la Bible, la désobéissance de l'être humain vis-à-vis de Dieu, et on trouve tout de suite cette histoire dans Genèse 4 qui nous rapporte le premier crime de l'humanité commis au sein de la même famille, Caïn qui tue son frère Abel. Jean précise très rapidement que ce meurtre, que Caïn n'a pas tué son frère parce que son frère serait mauvais ou parce que les actes de son frère le mériteraient, mais au contraire, parce que son frère a des actes justes. Caïn tue son frère parce qu'il est jaloux de la justice bien supérieure de son frère, qui dépasse la sienne, une jalousie qui nourrit une haine, réelle haine, contre son frère. Et cette haine finira, hélas, par le conduire à commettre un meurtre. Le texte de la Genèse ne précise pas que Caïn était du mauvais, c'est-à-dire du malin, du diable, mais certains textes juifs du XIIe siècle avant Jésus-Christ, du premier siècle après Jésus-Christ, précisent justement que le geste de Caïn, le meurtre d'Abel, donc, est le fruit, disait que Caïn a agi sous l'inspiration, voire sous la direction du diable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne nous indique pas ne donne pas cette indication, mais simplement se contente par ne préciser que la foi d'Abel, c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice bien meilleur que celui de son frère. En tout cas, dans le texte de la Genèse, c'est la jalousie. C'est la jalousie de Caïn qui est mise en lumière. Et Jean précise au verset 12 de notre texte que la jalousie de Caïn est portée non pas contre les mauvais actes ou les mauvaises actions de son frère, mais au contraire, contre les actes justes de son frère Abel. Donc nous avons là jalousie, haine, meurtre, une triade qui forme un enchaînement naturel et terrible. C'est cela qui a conduit Abel. C'est cela qui a conduit au meurtre d'Abel, donc Caïn a tué son frère Abel. Cet enchaînement va aussi, un peu plus tard dans l'histoire, conduire les prêtres juifs à réclamer la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la justice de ce Seigneur, de Seigneur Jésus, la justice de cet enseignant Jésus, sa justice, son amour de la loi de Dieu dépasse de très loin celle des pharisiens et des scribes. Et par conséquent, le même cheminement a été entrepris, celui de Caïn. Les prêtres ont repris exactement la même logique. Jalousie, haine, meurtre. Mais cet enchaînement ne s'arrête pas simplement à la mort du Seigneur Jésus. Il continue à se manifester contre les disciples de Jésus aussi, contre les chrétiens, ces chrétiens qui sont appelés à vivre dans la justice. À vrai dire, le Seigneur Jésus nous a placés en disant que votre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Une manière de dire que votre justice doit être bien supérieure à celle de tous ceux qui prônent une religion à œuvre. Voilà pourquoi Jean, il nous dit de ne pas nous étonner si le monde a de la haine pour nous, au verset 13. Nous devons nous attendre à ce que le monde, marqué par le péché, marqué par la désobéissance à Dieu, par l'opposition à Dieu, nous traite de la même manière que Caïn a traité son frère Abel. C'est le même principe qui est en œuvre. Le monde marqué par la haine et le péché s'oppose aux enfants de Dieu qui sont censés vivre et manifester la justice de Dieu, une justice bien supérieure à celle des religions, des autres religions. Des enfants qui sont passés de la mort à la vie, des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur et qui ne détestent pas. Ils ne rendent pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Et sur ce point, les actualités, les informations ne cessent de nous rappeler que malheureusement, ce déchaînement de la haine et de la jalousie conduit encore de nos jours au meurtre de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de frères et sœurs un peu partout dans le monde. Nos frères et sœurs au Moyen-Orient, à l'Extrême-Orient, payent justement un prix cher de leur appartenance au Christ. Le payent parfois au prix de leur vie. C'est aussi cette triste réalité qui est vécue et qui se vit, hélas encore, par nos frères et sœurs d'Afrique subsaharienne en particulier. De nos jours, beaucoup de nos frères et sœurs sont victimes de ce déchaînement de la haine qui conduit jusqu'à la mort. Mais il nous faut être aussi conscients que ce déchaînement de la haine et de la mort ne frappe pas seulement les chrétiens dont nous ne frappe pas simplement les chrétiens d'ailleurs, en particulier en Orient ou en Afrique, mais aussi, hélas, il frappe nos sociétés dites judéo-chrétiennes, dites occidentales. Certes, c'est fait vraiment avec beaucoup de douceur, c'est fait avec beaucoup de diplomatie, mais les conséquences de ceux qui peuvent être victimes de ce déchaînement sont aussi douloureuses que celles vécues par nos frères et sœurs ailleurs. Rien d'extraordinaire, à vrai dire, à la lumière de l'enseignement de Christ. Si le monde a de la haine pour vous, nous dit le Seigneur, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie de ce monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas à ce monde parce que je vous ai choisi du milieu de ce monde et c'est pourquoi il vous hait, le monde vous hait. C'est aussi cet enseignement que l'apôtre Pierre va rappeler aux chrétiens persécutés, aux premiers chrétiens persécutés dans sa première épître en disant « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est sévie parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Non, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. De la même manière que nous ne pouvons pas rendre le mal pour le mal, nous ne pouvons pas rendre la haine pour la haine. Au contraire, le Seigneur nous invite à prier pour ceux qui nous persécutent, à bénir ceux qui nous maudissent. Et si nous pouvons faire cela, si nous devons manifester de l'amour face à la haine, c'est parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Devenir chrétien est autre chose que de passer de la mort spirituelle, l'état d'un homme loin de Dieu, hostile à Dieu, séparé de Dieu, à la vie spirituelle d'un homme, à l'état d'un être humain réconcilié avec Dieu, vivant dans une réelle relation avec le Seigneur, vivant une nouvelle vie orientée sur, par la bonne et sainte volonté de Dieu. Dans cette nouvelle vie, avec Dieu, la vie chrétienne, l'amour est au cœur de toute chose, est au cœur de toute relation. Le Nouveau Testament place l'amour de Dieu et celui du prochain, comme je disais tout à l'heure, au cœur, au centre de la foi chrétienne. C'est par leur amour mutuel que les chrétiens sont reconnus comme disciples de Jésus. C'est aussi l'amour qui vient en premier dans les fruits de l'Esprit que l'apôtre Paul énumère dans Galates 5. Et enfin, toujours l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, il nous dit, il y a trois choses qui demeurent, l'amour, l'espérance, la foi, l'amour, l'espérance, mais celle, la meilleure, la plus grande, c'est l'amour. L'amour doit être, doit demeurer notre marque fondamentale de chrétien, même si nous devons toujours aller de plus en plus loin, même si nous devons toujours aller de progrès en progrès. Nous ne pouvons pas céder à la haine. Nous ne pouvons pas céder à la haine, car celui qui n'aime pas demeure dans la mort, nous dit Jean. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Lorsque nous sommes animés par la haine, nous ne pouvons dire que le nouveau principe de l'amour de Dieu est mis en œuvre dans notre cœur. Avoir de la haine dans son cœur pour son frère peut conduire au meurtre. C'est le lien que le Seigneur Jésus lui-même fait dans l'enseignement sur le serment sur la montagne. Il nous décrit le processus qui conduit au meurtre en commençant simplement par une pensée du cœur. La haine, la colère minent les relations avec les autres et cela peut conduire jusqu'au meurtre, jusqu'au meurtre comme Cain a tué son frère Abel. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement, celui qui dira à son frère Raca sera justiciable de Sanhédrin, et celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu, dans Matthieu chapitre 5. Le Seigneur attire notre attention sur la logique qui va d'une pensée mauvaise, d'une jalousie, jusqu'à la haine et pour finir jusqu'au meurtre. Le Seigneur nous invite à nous aimer mutuellement, comme lui, il nous a aimés le premier. Christ nous a aimés, il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit le Seigneur Jésus, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si Cain est le type d'un monde marqué par la haine et opposé à Dieu, Jésus est le type d'un monde marqué par l'amour et l'obéissance à Dieu. Si l'exemple de Cain est à fuir, celui de Jésus est à suivre. Jean place devant nous, en effet, l'exemple de Jésus. Un exemple de Jésus qui a donné sa vie pour nous, Christ qui a donné sa vie pour nous. Par amour, Jésus s'est dessaisi de sa propre vie pour nous. Il l'a fait en toute liberté, sans aucune contrainte, comme il le précise lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est la haine de Cain a l'a conduit à ôter la vie de son frère. L'amour de Jésus l'a conduit à donner sa vie pour ses frères. La haine est négative. Elle cherche à détruire l'autre, à le nuire. Elle est dirigée contre lui, conduit à agir contre lui jusqu'à arriver dans certains cas au meurtre. Par contre, l'amour, lui, est positif. Il cherche le bien de la personne, le bien de l'autre, et il conduit à une action en sa faveur, même parfois jusqu'au sacrifice de soi-même, comme c'était le cas de notre Seigneur Jésus. La vie est la chose la plus précieuse, qu'une personne possède. Lui ôter la vie, c'est lui ôter ce qu'il a de plus précieux, de plus cher. Ce n'est pas pour rien que le sixième commandement qui commence la deuxième tablette de la loi, vous savez, il y a les deux tablettes, les cinq premiers commandements et les cinq autres, et la deuxième tablette qui est orientée vers la relation entre les êtres humains, vers la relation envers l'autre, commence par ce commandement, tu ne commettras pas de meurtre. C'est le premier commandement qui vient dans cette deuxième tablette. La vie humaine est tellement importante que nous devons veiller pour qu'elle ne perde jamais, jamais sa valeur à nos yeux. Car tout ce que nous entendons et tout ce qui se fait dans notre monde milite justement à banaliser la vie humaine. Il y a tellement de morts aujourd'hui dans le monde. Et en particulier, ceux qui regardent les réseaux sociaux, il y a des images, il y a des atrocités et très facilement, on risque de s'habituer et considérer que la vie humaine, finalement, n'est pas si chère que cela. Faisons attention. Jean nous invite à fuir l'exemple du meurtrier de Caïn et à suivre celui de notre Seigneur. Fuir l'exemple de ceux qui ôtent la vie des autres très facilement, même trop facilement, parfois pour des raisons religieuses, ces derniers temps en tout cas, au nom de la religion, mais aussi parfois pour d'autres raisons. Faisons attention. Suivons l'exemple de Christ pour qui, au contraire, la vie de chacun est importante. Elle est tellement importante qu'il a donné sa vie pour chacun. Comment suivre justement l'exemple, cet exemple de l'amour incarné qui nous est présenté ici par l'apôtre Jean et que nous sommes invités à imiter? Jean nous donne deux implications concrètes que l'exemple de Jésus doit avoir sur notre vie. D'abord, il nous dit au verset 16, « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Comme Christ nous a aimés, nous devons aimer comme lui. Nous devons aimer les autres. Comme Christ a marché, nous devons nous aussi marcher comme lui. Comme Christ a donné sa vie pour nous, nous devons nous aussi donner notre vie pour les frères et sœurs. » L'exemple de Christ n'est pas simplement ici dans l'Évangile pour être admiré, pour être contemplé, mais il est là aussi pour être imité. Certes, ce n'est pas simple et encore moins facile d'imiter un tel exemple. Néanmoins, c'est l'exigence de l'amour que Dieu place dans nos cœurs, dans le cœur de ses enfants par son esprit. Et si le Seigneur place cet amour dans notre cœur par son esprit, et il nous accordera aussi la grâce de pouvoir le vivre, même lorsque l'exigence est grande, voire extrême. L'exemple de Christ, qui a été jusqu'à se dessaisir de sa vie par amour pour nous, nous place devant aussi la possibilité pour nous d'aller jusqu'au sacrifice ultime, par amour pour les frères et sœurs, par amour pour les autres. Et nous faire attention simplement ici, et surtout en ce temps où beaucoup de personnes donnent la mort, se sacrifient au nom de la religion. La différence avec ce que le Seigneur nous demande, avec l'exemple de l'Évangile, c'est que lorsque nous nous sacrifions pour les autres, nous ne donnons pas la mort au passage, mais nous donnons la vie, nous permettons aux autres d'être sauvés et non pas de mourir. Contrairement à tous ceux aujourd'hui qui s'explosent, qui se sacrifient, mais au passage, ils donnent énormément de morts aux autres. La différence avec la foi chrétienne, avec le don de soi auquel le Seigneur Jésus nous appelle, c'est que notre don de soi apporte la vie, sauve la vie des autres et jamais, au grand jamais, donne la mort aux autres. Une fois que cette exigence est soulignée, la nécessité, le risque d'aller jusqu'à nos dons de soi pour les autres, une fois que nous avons souligné cela, il nous faut maintenant, me semble-t-il, noter que l'expression « donner sa vie pour les frères » ne veut pas forcément dire qu'il faut aller jusque-là, jusqu'au sacrifice ultime, jusqu'à cet acte héroïque qui est, à vrai dire, dont l'histoire est réservée que pour quelques-uns. Bien sûr, il y a notre Seigneur Jésus, il y a Étienne, il y a aussi d'autres exemples dans l'histoire de l'Église. Cette expression vise surtout le fait de mettre notre vie au service de nos frères et sœurs, dans la vie de tous les jours. Vous savez, certains se berceraient d'illusions en se disant qu'ils sont prêts à de grands exploits, même s'il faut donner sa vie pour les autres à ce sacrifice ultime, il n'y a pas de problème, alors qu'ils sont incapables d'exprimer leur amour à l'égard de leurs frères, d'une manière, ou à leur sœur d'ailleurs, d'une manière concrète, et qui le frère ou la sœur qui est dans le besoin. Et au verset 17, Jean, justement, attire notre attention sur ce danger. Il nous donne un exemple, et probablement un exemple qui s'est produit dans la vie de l'Église, en disant, un chrétien, l'exemple d'un chrétien qui ferme la porte à son frère qui est dans le besoin. Un tel chrétien ne peut prétendre avoir l'amour de Dieu en lui. Car si l'amour de Dieu, celui-là même qui a agi dans le cœur de Jésus, qui a conduit Jésus jusqu'à donner sa vie pour les autres, si cet amour-là était dans le cœur de ce frère, il ne pourrait pas fermer la porte à sa sœur ou à son frère qui est dans le besoin. Il s'agit ici d'un amour qui s'exprime concrètement par des actes simples et qui répondent à des situations bien précises pour voir aux besoins des frères et sœurs que Dieu place devant nous, aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Et c'est cet enseignement aussi que Jacques va donner dans son épître au chapitre 2. Il écrira à partir de verset 15, « Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un d'entre vous leur dise « Au revoir ». Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud, bon appétit, mais sans leur donner ce dont ils ont besoin, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. Et Jacques poursuit en disant, à quoi sert-il? Parfois nous avons de très belles théories pour des chrétiens du monde entier, les chrétiens persécutés ailleurs, pour l'humanité dans son ensemble. Et nous nous rendons compte que nous sommes incapables de répondre à un besoin modeste, mais réel, concret, d'un frère, d'une sœur qui est devant nous. Et pourtant, Jean, ici, il nous appelle à répondre à ce besoin-là. Dans tout notre passage, le texte que nous avons lu tout au début, il est question des frères au pluriel. Et ici, au verset 17, Jean, il passe de pluriel au singulier. Il dit, il parle du frère, il aurait pu parler aussi de la sœur. Il parle au singulier. C'est une manière certainement d'attirer notre attention, de nous inviter à quitter ces fameuses généralités qui sont tellement belles pour rejoindre la réalité spécifique du frère, de la sœur qui est devant nous. Il est plus facile d'être enthousiaste, d'aimer l'humanité dans sa globalité, dans son généralement avec un grand H, mais difficile, bien difficile d'aimer un individu, homme et femme, et en particulier tous ceux qui sont peut-être, qui pourraient être en tout cas paraître à nos yeux inintéressants, encore exaspérants, tous ces gens qui sont peut-être peu attirants, très difficile de les aimer, nettement plus facile d'aimer l'humanité dans son ensemble, plus difficile d'aimer le frère, la sœur, l'homme, la femme que nous avons devant nous. Aimer tout le monde en général, à vrai dire, est une belle excuse pour n'aimer personne en particulier. Faisons donc attention pour ne pas nous bercer dans ce genre d'illusion. L'enseignement de Jean est très clair. Aimer celui ou celle que le Seigneur place sur notre chemin. Nous devons aimer celui ou celle que le Seigneur place sur notre chemin, tout comme le bon samaritain s'est rendu, s'est fait le prochain de cet homme roué de coups par les brigands sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Mais pour pouvoir aider notre frère, notre sœur dans le besoin, nous devons avoir prendre le temps nécessaire pour voir, pour regarder, pour comprendre la situation du frère et de la sœur. Nous vivons dans un monde qui ne favorise pas du tout l'arrêt, qui va tellement vite qu'il nous empêche parfois de nous arrêter, de prendre le temps nécessaire, de voir et de finir par comprendre le besoin de l'autre.
Il peut nous arriver à nous aussi de rester très superficiels dans le regard que nous portons, que nous posons sur nos frères et sœurs, et de ce fait, ne jamais voir, à vrai dire, son besoin, même le besoin le plus élémentaire. Il nous faut donc prendre le temps nécessaire pour voir et comprendre. D'autre part, il nous faut avoir les moyens pour aider notre frère ou notre sœur dans le besoin. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Et à ce sujet, parfois aussi, certains peuvent avoir des attentes complètement impossibles à satisfaire. Et il me semble que nous devons avoir une conscience tranquille à cet égard. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Si nous n'avons rien, nous ne pouvons donner que rien. Inutile donc de tomber dans de fausses culpabilités. Nous devons admettre que nous ne pouvons pas répondre à toutes les sollicitations. Mais en même temps, nous devons prendre par contre toute notre responsabilité, entièrement notre part de responsabilité dans ce geste, dans cette expression d'amour envers le frère ou la sœur, envers celui qui est dans le besoin. Voir et avoir sont les deux conditions, me semble-t-il, nécessaires pour aider concrètement le frère, la sœur, dans le besoin, mais aussi simplement le prochain que le Seigneur place sur notre chemin. Agir ainsi parce que l'amour de Dieu demeure en nous. L'amour de Dieu n'est pas simplement manifesté en Jésus-Christ il y a 2000 ans, mais cet même amour de Dieu continue à se manifester dans notre cœur parce que Dieu le répand par son esprit. Dans Romains 5, il dit cela, il le répand par son esprit dans notre cœur. Et cet amour nous conduit en effet à abandonner ce qui a de la valeur pour nous, pour notre propre vie, afin d'enrichir la vie d'un autre, la vie de l'autre. Pour conclure son message, Jean rappelle à tous que l'amour n'est pas simplement une question de sentiment, n'est pas une question de parole, mais c'est une question d'action. C'est au verset 18. Les actes parlent bien plus fortement que tous les discours. Ceux qui entendent, ceux qui nous entendent parler, à vrai dire, entendent davantage ce que nous disons par nos actes que ce que nous disons par nos paroles. Surtout lorsque nos paroles contredisent réellement nos paroles. Si notre amour est vrai, si notre amour est authentique, il nous conduira d'une manière ou d'une autre à agir, de le manifester d'une manière concrète et non pas seulement avec des théories, avec des discours et des sentiments. Voilà donc, chers frères et sœurs, j'aimerais nous inviter à aimer réellement et concrètement à l'image de Christ qui nous a aimés jusqu'au bout et qui l'a manifesté en allant jusqu'à la croix. Nous devons nous aussi laisser l'amour que Dieu a répandu et continuer à répandre dans notre cœur par son esprit, laisser cet amour se manifester aussi bien à l'égard de notre Seigneur, de notre Dieu, mais aussi envers notre frère, notre sœur, envers tous ces prochains ou toutes ces personnes que le Seigneur place sur notre chemin et envers lesquelles le Seigneur nous demande de nous rendre prochains, leurs prochains. Cette voie de l'amour conduit à nous dessaisir de nos biens, voire dans des cas extrêmes, comme je le disais tout à l'heure, de notre propre vie, et cela pour aider, sauver les autres. Choisir d'aimer coûte. Mais le bonheur passe par là. Le bonheur du don de soi-même, passe par là. Le vrai bonheur. Il y a plus de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est cela que notre frère Henri Blocher, il y a quelques dimanches de cela, nous disait derrière cette même chair. La tentation de suivre l'exemple de Cain est réelle, car suivre Cain, cette tentation, elle est réelle, y compris pour nous chrétiens, parce qu'elle répond à un besoin d'égoïsme qui marque l'être humain que nous sommes, marqué par le péché, par la désobéissance à Dieu. C'est plus facile de tomber dans de mauvaises pensées, jalousie, haine, finir parfois par le meurtre. Mais pour nous qui nous réclamons du Christ, nous ne pouvons choisir que suivre l'exemple de notre Seigneur, la voie que le Seigneur nous a choisie lui-même, a tracée devant nous, à savoir aimer en vérité et en acte. Que le Seigneur nous aide, nous accompagne par son esprit, lui qui peut créer en nous le vouloir et le pouvoir, pour que nous puissions aimer de plus en plus, comme le Christ nous a aimés. Amen.